Bien, alors vous m'avez proposé un sujet un peu difficile et délicat. Le Dieu de l'Ancien Testament, tyran, cruel et génocidaire. Alors, je sais que c'est ce qu'on entend quelquefois. J'ai même entendu dire qu'un citoyen allemand avait voulu intenter un procès pour bannir la lecture de la Bible, étant donné le caractère sanguinaire et génocidaire que représentait la Bible. Ça ne pouvait avoir qu'un mauvais impact sur les jeunes en particulier. Apparemment, il n'a pas gagné le procès et apparemment en Allemagne on lit toujours la Bible en toute liberté, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les pays du monde, mais ça c'est encore une autre question. Alors c'est vrai, on a tendance à opposer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et on a tendance à dire oui, l'Ancien Testament c'est le Dieu de la justice, c'est le Dieu de colère, c'est le Dieu de la vengeance, et le Nouveau Testament, c'est le Dieu de l'amour, de la fraternité, de la compassion inconditionnelle. Tout cela, c'est quelque chose de relativement et radicalement nouveau. Simplement, en passant, savez-vous que les trois quarts des paroles de Jésus sont des paroles qui manifestent la justice et le jugement? Jésus, qui est donc le personnage principal du Nouveau Testament, il faut peut-être pas l'oublier. Et savez-vous que le grand apôtre Paul a dit de l'Ancien Testament, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, que l'Ancien Testament est le temps de la patience de Dieu. Donc, les perspectives sont quelque peu différentes suivant qui on écoute. Et je pense que dans le domaine dans leur domaine, et Jésus de Nazareth et l'apôtre Paul étaient plutôt compétents. Et donc, c'est plutôt eux qu'il faut suivre et écouter lorsqu'on essaye de définir un sujet. Alors, maintenant, cela dit, il est vrai qu'il y a des textes dans l'Ancien Testament qui choquent notre sensibilité. Quoique, ça m'étonne un peu qu'ils nous choquent tellement, puisque quand même, le XXe siècle n'a pas été un siècle sur le plan des violences qui soit au-dessus de tout soupçon. Le XXe siècle a été témoin, hélas, de deux idéologies qui ont fait des ravages considérables. Je veux dire le nazisme et le communisme. Je crois que la Deuxième Guerre mondiale a eu 45 millions de morts et que le communisme est responsable de 70 millions de morts, ce qui n'est pas rien. Donc certes, nous sommes plus civilisés et plus raffinés dans notre exercice de la violence, mais est-ce que nous sommes pour autant plus morales? C'est là la grande question. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre que dans l'Ancien Testament, Dieu se présente. Je vais faire quelques remarques préliminaires et puis après, je prendrai quelques exemples. Dieu se présente comme un Dieu saint. Et dans cette notion de sainteté, il y a à la fois l'idée de justice et d'amour. L'un ne va jamais sans l'autre. Mais dans la mesure où le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu unique, créateur, et qu'il est à l'origine de toute chose, y compris des terriens, des humains, il est la norme ultime dans l'univers. Il est la référence. Il est l'ultime vis-à-vis de l'ensemble de sa création et aussi des êtres humains en particulier. Donc, de par le fait qu'il est créateur, l'homme, créé à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire un être personnel qui pense, qui aime et qui agit, cet être créé à son image a des comptes à rendre à son ultime vis-à-vis. Alors je sais très bien que depuis le siècle des Lumières, et en particulier depuis Nietzsche, ce n'est pas un discours qui est apprécié par nos contemporains qui se veulent souverains dans tous les domaines de l'existence et qui veulent surtout, qui refusent de rendre des comptes à qui que ce soit, et en particulier et surtout à une ultime référence qui serait la norme de l'univers et qui serait Dieu lui-même. Le problème, c'est que lorsque nous refusons ce vis-à-vis, nous en trouvons d'autres. Et de par le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu, il a besoin d'un point de référence par rapport à qui il doit se situer. Et si ce point de référence n'est pas son ultime vis-à-vis, c'est-à-dire le Dieu créateur infini et personnel, eh bien, il va se créer d'autres dieux, il va se créer d'autres points de référence, il va vouloir se définir et définir le sens de son existence par rapport à d'autres points par rapport auxquels il peut se situer. Et c'est ce que nous appelons en particulier l'idolâtrie. Le problème avec cette manière de faire, c'est que, en fin de compte, dans la mesure où nos idoles, celles que nous créons, sont des idoles qui n'ont aucune substance réelle et surtout aucune vie réelle, nous tendons à leur ressembler de plus en plus. Bref, c'est un premier point que je voulais faire. Nous vivons dans l'univers de Dieu en tant que créature, créée à l'image de Dieu, et nous avons donc des comptes à rendre, et nous avons à nous situer par rapport à cet ultime vis-à-vis. Dans la mesure où nous avons des comptes à rendre, il est certain que cela implique que nous vivons dans un univers moral. Nous ne sommes pas, selon la perspective que je vous développe ici, je vous demande simplement de la prendre en considération comme une perspective parmi d'autres, hein, quitte à en discuter par la suite pour essayer de savoir si elle est vraiment crédible et vraie. Nous vivons donc dans un univers moral, c'est-à-dire que l'univers n'est pas absurde. Et ça aussi, ça me semble être très important par rapport à la pensée contemporaine, qui a tendance à dire que l'univers est régi par le hasard et la nécessité, et que en fin de compte, malgré tous les efforts que l'homme a déployés pour essayer de définir un sens ultime à l'existence, force est de constater qu'il n'y arrive pas et qu'il est obligé de conclure avec les existentialistes et les penseurs qui les ont suivis que finalement cet univers n'a ni queue ni tête et que c'est un univers arbitraire gouverné par l'absurde. Évidemment, la perspective biblique nous rappelle clairement que ce n'est pas le cas. Alors certes, il y a la réalité du mal dans le monde, de la souffrance, de la violence, de toutes sortes d'agressions portées à l'existence humaine, y compris par le biais de l'extraordinaire compétence de l'homme à se déployer dans le domaine de l'ingéniosité, de la science, de la technique. On constate que il y a toujours et constamment le revers de la médaille. Ça ne veut pas dire que ces exploits et ces inventions ne sont pas quelque chose de significatif, mais cela signifie que il y a toujours les deux aspects à prendre en compte, puisque nous vivons dans ce monde qui souffre et qui est déchiré et qui connaît des souffrances parfois extrêmes. Mais vous avez abordé ce sujet la dernière fois, donc je ne vais pas entrer en matière sur ce plan. J'ajouterai simplement une autre chose, c'est que dans l'Ancien Testament, et c'est important de le souligner ici, on ne distingue pas toujours entre la cause première et les causes secondes. La cause première, étant Dieu lui-même. On met beaucoup l'accent dans l'Ancien Testament sur le fait que Dieu est souverain et que Dieu contrôle les événements et que rien n'échappe à son ultime volonté. C'est un des grands discours de l'Ancien Testament, ça traverse tout l'Ancien Testament, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et quelquefois, on peut s'interroger et se dire, mais après, finalement, si c'est le cas, où est la place pour les causes secondes? En réalité, les causes secondes sont bien là. Et quand je parle de causes secondes, je veux dire vous et moi, un être ou des êtres responsables, capables d'agir de manière significative, de telle sorte que nous impactons l'histoire, au moins notre histoire. Mais peut-être, si nous avons une destinée plus importante, nous pouvons avoir une influence et une action qui porte à conséquence dans une sphère plus large, que ce soit dans celui de notre profession ou dans celui de la cité où nous vivons ou éventuellement dans celui de l'État où nous fonctionnons. Je donne un exemple biblique. Par exemple, vous connaissez peut-être l'histoire de l'Exode où le peuple d'Israël quitte l'Égypte précipitamment et où il y a toute une confrontation entre Moïse et Aaron et d'autre part le Pharaon. Et Moïse et Aaron sont le porte-parole de Dieu, donc en fait c'est une confrontation sur le plan religieux. Et si on lit les premiers chapitres de l'Exode, on trouve cette petite phrase, et Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Mais on se dit, bon, si Dieu endurcit le cœur de Pharaon, en quoi est-il responsable? Mais si vous lisez les mêmes chapitres, vous verrez une autre petite phrase qui dit, et Pharaon a endurci son propre cœur. Donc il y a les deux choses en même temps. Il y a les deux choses en même temps. L'homme est vraiment responsable, significatif. En même temps, c'est vrai que dans la mesure où Dieu est souverain, rien n'échappe à son ultime volonté, à son projet ultime pour l'humanité. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de dire que l'existence humaine est cosmique, a un sens. Puisque c'est ce Dieu souverain et qui, dans sa grande fidélité et sagesse, contrôle les choses. Alors, cela dit, je voudrais maintenant citer, après ces quelques mots d'introduction, je voudrais citer quelques illustrations pour montrer finalement quel est le vrai visage de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors tout d'abord, je vais prendre le sujet le plus délicat, à savoir, pour ne pas échapper à la question qui m'a été posée, la conquête de la terre promise. Je vous ai dit que Dieu était l'ultime référence dans l'univers, qu'il était la norme de l'univers, qu'il était donc juste et intègre et pas arbitraire. Et c'est vrai que au-delà de la conquête où on nous parle des interventions du peuple d'Israël qui nous choque en quelque sorte, puisque leur attitude est assez radicale, tout au moins dans un certain nombre de cas. Je voudrais ici souligner effectivement que Dieu, en tant qu'ultime vis-à-vis à qui on a des comptes à rendre, exerce son jugement de diverses manières. Il peut l'exercer de manière plus directe et immédiate, s'il le souhaite. On cite souvent à ce sujet le fameux déluge, qui est l'expression de son jugement sur un peuple, d'ailleurs l'ensemble des habitants du monde de l'époque, qui se sont livrés à des comportements très éloignés par rapport aux exigences de ce Dieu intègre, juste et compatissant. On peut aussi citer le fameux récit de Sodome et Gomorre. Et il y a finalement aussi ces événements relatifs à l'invasion et à la prise de la terre promise. Mais Dieu intervient aussi de manière indirecte. C'est-à-dire que dans la mesure où il nous a créés à son image, il nous a créés de telle sorte que nous sommes appelés, en tant que créatures, à exercer notre responsabilité. Et nous pouvons choisir de vivre en relation avec lui, en acceptant qu'il est notre ultime référence, et d'ailleurs je pense que c'est la meilleure manière de pleinement vivre la vie, liberté et la vie humaine. Et je vous dirai pourquoi si vous le souhaitez dans la discussion par la suite. Mais on peut aussi choisir de vivre indépendamment de lui. Et Dieu est tellement conséquent qu'il nous dit, d'accord, vous voulez vivre sans moi, sans cette ultime référence. D'accord, soyez votre propre norme, votre propre point de référence, créez votre style de vie, créez le sens à donner à votre existence, créez vos idoles avec lesquelles vous allez pouvoir vous situer dans l'univers, mais j'en assume pas les conséquences. C'est à vous d'en assumer les conséquences. C'est ce qu'on appelle le jugement de Dieu au travers des choix que nous faisons, des choix significatifs que nous faisons. Il y a un problème aujourd'hui que nous avons beaucoup de peine à comprendre, notre génération, c'est le principe de causalité. C'est-à-dire que nos choix ont des conséquences. Et en particulier dans le domaine de l'anthropologie. Je pense que nous sommes dominés aujourd'hui par une anthropologie qui est essentiellement, comment dirais-je, mécanique, neuropsychologique ou biochimique. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'une formule. Et si nous ne sommes qu'une formule, eh bien, évidemment, avec notre corps, avec notre être, notre personne, d'ailleurs il ne faut même pas parler de personne, avec la chose que nous sommes, nous pouvons faire n'importe quoi. Et nous ne mesurons pas les conséquences que cela peut avoir. Parce que nous comprenons pas la signification de cela. Nous ne comprenons plus le fait que il y a ce principe de cause à effet, il y a ce principe que nos choix ont effectivement des conséquences très précises. Donc, pour cela, que se passe-t-il au niveau de l'histoire? Bien, si vous prenez l'ensemble du Pentateuque que j'ai évoqué par rapport aux événements de la terre promise et du fait que les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, eh bien, nous constatons que déjà dans le premier livre, Dieu promet effectivement à Abraham et à sa descendance d'être avec eux et de leur donner la terre promise. Mais il leur dit déjà à ce moment-là, au chapitre 15 de la Genèse, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que, et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait une référence à la signification et au principe de causalité, parce que l'infidélité ou la corruption du peuple cananéen n'est pas encore arrivée à son comble. Et il faudra attendre 400 ans avant que cette infidélité arrive à son comble. Et je dirais que pendant toute cette période-là, il y avait une possibilité pour le peuple cananéen aussi de revenir de ses égarements. Donc, au fond, que se passe-t-il au moment où le peuple d'Israël entre en terre promise? Ce n'est pas du tout de l'ordre du génocide, comme certains ont voulu le prétendre, c'est une lecture un peu rapide et par trop courte du texte, c'est que par ce biais, Dieu exerce son jugement, manifeste sa justice. Et en manifestant sa justice par rapport au peuple cananéen, il manifeste sa grâce vis-à-vis du peuple qu'il s'est choisi. Parce que ce peuple aura une vocation très spéciale et qu'il aura exercée tout au long de son histoire, c'est-à-dire rendre gloire à Dieu et être le porte-parole de ses oracles, destinés d'ailleurs non seulement au peuple juif, mais à l'ensemble de l'humanité. Et c'est ce que soulignera en particulier le Nouveau Testament, qui est en quelque sorte l'aboutissement. La pleine révélation de ce que Dieu a tissé tout au long de l'Ancien Testament. Donc, à cela, il faut ajouter ceci, c'est que, en réalité, les paroles très sévères que Dieu transmet à son peuple par rapport aux Cananéens ne sont pas dues à des considérations de race ou d'ethnie. C'est essentiellement lié au fait que Dieu souhaite que son peuple, qu'il s'est mis à part, soit un peuple qui reste fidèle à son Dieu, d'une part, sur le plan religieux, et déploie dans le concret de la vie un style de vie qui soit radicalement différent du style de vie de ce peuple. Et alors là, je pourrais, mais c'est un autre sujet, je pourrais vous montrer à quel point la religion d'Israël est unique dans le contexte du Proche-Orient ancien. Radicalement différente. Et pour moi, c'est une indication que ce n'est pas simplement une religion d'invention humaine. Il y a plus que cela, et c'est unique parce qu'il y a vraiment eu une communication dans les catégories du langage humain de la part d'un Dieu infini et personnel, une communication à ce peuple qu'il s'était choisi, non pas parce qu'il était meilleur que les autres ou plus puissant que les autres, mais simplement parce qu'il voulait, par l'intermédiaire de ce peuple, transmettre un message essentiel et fondamental à ces nations. Et donc, il fallait bien que ce peuple ait une terre et puisse s'organiser en tant que nation mise à part par Dieu afin d'accomplir une vocation, une mission tout à fait particulière. Alors rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, le royaume de Dieu, disons la réalité spirituelle, se confond avec les contours d'une nation et d'une nation comme les autres. J'ajouterai ici qu'en réalité, la guerre dans l'Ancien Testament n'est jamais conçue comme une fin en soi, n'est jamais conçue comme un moyen de faire progresser le royaume de Dieu. C'est même, Dieu porte même un regard plutôt froid, frileux vis-à-vis de la guerre. Il y a des exemples, par exemple David qui a dû consolider les frontières de son royaume. Dieu lui a dit, et c'est rapporté dans le livre des Chroniques, qu'il ne bâtira pas le temple. Pourquoi? Parce qu'il a été homme de guerre, homme de sang. Donc, la finalité de la démarche de tout l'Ancien Testament, ce n'est pas l'expansion du royaume d'Israël, mais c'est la paix. Et lorsqu'une nation avec laquelle Israël est en guerre défensive accepte de faire la paix, dans ce cas-là, la paix est accordée. Dans les conditions, évidemment, de soumission, comme ça se passe, évidemment, dans toutes les guerres. Je veux dire, les Allemands ont perdu la guerre. Deuxième Guerre mondiale, mais ils ont été soumis aux Alliés pendant un bon nombre d'années. Hein, ils n'ont même pas eu le droit d'avoir leur armée pendant très longtemps. Et même encore aujourd'hui, c'est réduit à une peau de chagrin. Bon, c'est une autre question, mais c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans la dimension de l'acceptable. Et quand il y a des excès de violence, et il y en a dans l'Ancien Testament, Dieu n'approuve pas nécessairement ses excès. Il y avait un fou furieux du nom de Jéhu dans l'Ancien Testament qui est intervenu pour faire disparaître le baalisme, donc la religion cananéenne à une époque de l'histoire d'Israël, et il a liquidé tout le monde, toute la dynastie des Omrides qui représentait cette tendance. Alors on lit ce texte, on s'est dit, et on nous dit que Dieu a ainsi exercé son jugement. Eh bien, un peu plus tard, un peu plus loin dans la Bible, c'est pour ça qu'il faut lire tout l'Ancien Testament, on prend le livre d'Osée, un petit prophète à peu près de la même époque, un peu après, et que dit le petit prophète Osée, au début de sa prophétie, il condamne au nom de Dieu, le comportement de Jéhu. Parce qu'il y avait eu là un excès de violence dans le zèle qu'exprimait cet homme. Et on pourrait citer de nombreux cas. Par exemple, le prophète Habacuc s'indigne parce que le peuple d'Israël, de Juda, est dans l'infidélité et Dieu ne fait rien apparemment. Et Dieu dit, ben écoute, sache une chose, c'est que nous sommes dans un univers moral, et si mon peuple est infidèle, il connaîtra aussi la réalité de la justice de Dieu et du jugement. Et ce sera par le biais des Babyloniens. Alors Habacuc réfléchit, il accepte la réponse, et puis il se scandalise une deuxième fois, et il dit, mais les Babyloniens, c'est pas possible. Certes, Israël ou Juda est infidèle, mais les Babyloniens, c'est vraiment la grande puissance arbitraire de l'époque. C'est pas possible que Dieu exerce son jugement ainsi. Et que répond Dieu à Habacuc, qui lui dit, ben écoute, écoute, c'est pas exactement comme ça que les choses vont se passer. Les Babyloniens, parce qu'ils croient que leurs bras et leur force, aussi connaîtront le jugement en leur temps. Et effectivement, les Babyloniens ont connu le jugement. Mais il ajoute, et c'est ça qui est assez extraordinaire, qui montre que la finalité du projet de Dieu est tout à fait ailleurs, et il ajoute cette parole, le juste vivra par sa foi, par la foi dans les promesses de Dieu, et par sa foi, la traduction grecque de l'Ancien Testament a compris une référence au Messie, par la foi du Messie, qui va lui accomplir le véritable acte de paix et de réconciliation. Vous voyez que nous sommes loin de simplement une perspective où on se limite à un peuple qui ne pense qu'à s'amuser à faire la guerre ou à se livrer à une satisfaction plus ou moins perverse en se livrant à la violence. Alors c'est la première chose que je voulais dire, et puis je vais m'avancer un peu plus, mais ça ira plus rapidement. Prenons un autre exemple, le livre de Job. Le livre de Job, c'est vraiment un livre dramatique. Voici un homme intègre et juste, Job, qui perd tout. Qui perd tout et qui se retrouve à deux doigts de la mort. Et il ne comprend pas. Et ses amis qui arrivent de divers lieux de l'époque, ce sont des sages, expriment envers lui tout d'abord une compassion extraordinaire, puisque pendant 7 jours et 7 nuits, il s'assoit à côté de lui et ils compatissent, tellement ils sont horrifiés par le mal. Et puis finalement, Job n'en pouvant plus, se livre. Et quand on est éprouvé dans sa vie et qu'on connaît la souffrance, parfois, on prononce des paroles excessives, excessives. Et Job, ne comprenant pas, s'interroge sur son Dieu. Et se pose la question de savoir, mais qui est ce Dieu qui m'accable ainsi? Et qui est arbitraire avec moi? Je voudrais pouvoir défendre ma cause devant lui, mais je n'ai personne à qui m'adresser. Et donc, il prononce des paroles qui sont à la limite de l'acceptable, qui sont à la limite de ce que nous appellerions, même si ce n'est pas un terme moderne, le blasphème. Et alors ses amis, pour rendre les choses encore pires, finissent par lui dire, ben écoute, au fond, c'est clair, si tu souffres ainsi, c'est que tu as péché. c'est qu'il y a un péché secret dans ton existence et que vraiment tu as fait quelque chose de grave et que maintenant tu reçois tout cela en réponse à tes mauvaises actions. Eh bien, Job, dans tout cela, s'accroche à son intégrité. Il est conscient que c'est un être qui ne fait pas le poids devant Dieu, mais il refuse d'admettre que si on souffre, c'est qu'il y a toujours un péché quelque part caché au fin fond de notre subconscient. Alors il est vrai que parfois, quand on souffre, c'est lié à notre infidélité, à notre comportement insensé, parce que c'est ça le péché, c'est un acte insensé, hein, c'est pas plus que ça, qui va à l'encontre de notre bien-être et éventuellement aussi de notre bonheur. Alors c'est vrai que ça peut arriver, ça, mais il arrive que les innocents souffrent aussi. Ça ne veut pas dire que l'innocent est quelqu'un au-dessus de tout reproche. Job ne se considère pas au-dessus de tout reproche. Mais il maintient, il affirme qu'il a été intègre. Et finalement, c'est Job qui est réhabilité et ses amis qui sont tensés parce qu'ils ont eu des propos à côté de la plaque. Donc que voyons-nous ici? Non pas un Dieu cruel comme on pourrait le croire dans un premier temps, mais un Dieu compatissant et juste puisque non seulement il tense les amis de Job, qui en fait n'étaient pas vraiment des amis, étant donné leurs propos, mais il leur dit explicitement qu'ils ont à se faire pardonner, c'est-à-dire à expier leurs fautes, et qu'en réalité, Job va être l'intercesseur qui va plaider leur cause. Et donc, eux aussi seront finalement réhabilités. Donc, nous voyons dans cet exemple-là un Dieu extraordinairement, je dirais, à la fois juste et compatissant. C'est les deux choses. Vous voyez, on est très loin d'un Dieu cruel, arbitraire, et qui n'en fait qu'à sa tête, et qui, finalement, n'a aucune, aucun intérêt réel pour sa création et sa créature. Et je termine par une évocation qui m'a beaucoup touché parce que j'ai été appelé à faire une étude là-dessus. C'est dans un récit qui se trouve dans Exode 32 à 34. Je vous recommande la lecture de ce texte. C'est un récit qui vient tout juste après le fameux incident du veau d'or. Dieu avait conclu avec Moïse une alliance, Moïse étant le représentant, le médiateur entre Dieu et le peuple. Et Moïse tardait de rentrer, il était sur la montagne en conversation avec Dieu, nous dit le récit, et il tardait de revenir. Et le peuple s'impatientait et finalement il se tourne vers Aaron qui était le second de Moïse, le prêtre aussi, le grand prêtre de l'époque, et il leur demande de faire un veau d'or pour remplacer Dieu ou pour lui donner une forme plus concrète. Pourquoi un veau? Ben parce que dans le Proche-Orient ancien, le veau est le symbole de la puissance. Et donc, ils évoquent ce veau d'or comme étant le Dieu qui les avait libérés de l'Égypte. Alors quand Moïse redescend de la montagne et qu'il voit tout cela, eh bien, il est scandalisé, il brise les pierres sur lesquelles sont écrites les 10 paroles. En fait, il y avait 2 tablettes, et sur les 2 tablettes, les 10 paroles étaient écrites, l'une étant le témoignage que devait garder le peuple, et l'autre étant le témoignage que devait garder Dieu. En quelque sorte, c'était une manière de sceller l'alliance qui s'était établie entre Dieu et Israël. Et il rentre dans une grande colère, et évidemment, Dieu, comme rien ne lui échappe, constate ce qui s'est passé, et il décide que c'en est fini avec ce peuple, et qu'il va reconstituer un peuple nouveau avec l'apport de Moïse. Et il s'engage dans ces 2 chapitres un dialogue extraordinaire entre Dieu et Moïse. Et Dieu va se laisser convaincre, en quelque sorte, par Moïse, qui intercède en faveur de ce peuple rebelle et qui finit par dire à Dieu: mais c'est parce qu'il est pécheur qu'il faut lui manifester ta compassion. Donc, je vous le résume comme ça rapidement parce que il faudrait regarder le texte pas à pas pour voir ce débat qui s'enclenche entre Dieu, le Dieu de l'univers, et Moïse, le médiateur de l'Alliance, qui va plaider la cause de ce peuple infidèle et qui est lui aussi, bien sûr, indigné par ce qu'il constate. Et je crois que c'est là encore un exemple, vous voyez, qui est très clairement indiqué dans tout l'Ancien Testament, où amour et justice de Dieu s'embrassent, se rencontrent. Je dis que c'est évoqué dans l'Ancien Testament, ben je vous donnerai un seul exemple, psaume 85, la fin de ce psaume, vous le verrez. Et en réalité, là où justice et amour de Dieu s'embrassent parfaitement, c'est dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, le Messie. Parce qu'effectivement, il y a eu, depuis le Jardin d'Éden, rupture de relation entre Dieu et l'humanité. Le problème fondamental du mal, ce n'est pas que le mal est ontologique, c'est-à-dire qu'il a toujours existé et qu'il est en Dieu en quelque sorte. Le problème fondamental de l'homme, du mal, est lié au fait que c'est une réalité morale. Le mal est lié à l'usage ultérieur de la liberté humaine. Pour le vrai problème de l'homme, c'est qu'il est devenu étranger par rapport à Dieu parce qu'il s'est révolté contre Dieu. Et à la croix, ce problème, ce dilemme moral est définitivement résolu. Est définitivement résolu dans la mesure où Dieu, en Jésus-Christ, assume le jugement qui revenait aux hommes. Et il assume ce jugement parce qu'il ne pouvait y avoir qu'un être parfait et dont la mort était de valeur infinie pour accomplir une telle œuvre salutaire. Et en ce faisant, Dieu manifeste son amour, manifeste sa compassion, manifeste sa grâce. et nous dit qu'il est possible d'être réconcilié avec lui et de connaître une paix profonde et durable. Voyez que nous sommes bien loin d'un Dieu tyrannique, cruel et génocidaire. Nous sommes là en présence d'un Dieu qui